Bon, si vous voulez bien, on va commencer. Avant de commencer, certains d'entre vous m'ont demandé des notes de cours, du cours 1 et du cours 2. Je signale d'abord ce que j'avais dit la première semaine, c'est que dès le lendemain d'un cours donné, les notes correspondantes se trouvent disponibles sur le web. Et j'ai rappelé de nouveau ici l'adresse du site web où vous pouvez trouver ces notes en PDF. En PDF, c'est-à-dire que ce n'est pas trop long à charger. D'autre part, il reste quelques notes de cours du cours 2 et du cours 4, donc si certains d'entre vous les veulent, il y en a encore de disponibles. Voilà, donc aujourd'hui, je commence le cours numéro 5, consacré au processus multiphotonique. Les processus multiphotoniques sont des processus impliquant non pas un seul, mais plusieurs photons. Donc, ils nécessitent plusieurs interactions avec le champ électromagnétique et ils n'apparaissent pas à l'ordre plus bas de la théorie des perturbations. Un exemple simple est le passage d'un atome d'un niveau petit a à un niveau plus élevé petit b par absorption non pas d'un seul, mais de 2, 3, 4, 5 photons. Avec bien sûr conservation de l'énergie globale, de l'impulsion globale et du moment cinétique global. Autre exemple, un atome excité par un champ électromagnétique monochromatique, on calcule son dipôle, le dipôle qui est induit, et on le calcule à des ordres supérieurs de la théorie des perturbations. On voit paraître des fréquences doubles, triples, on a ce qu'on appelle des susceptibilités non linéaires, qui sont à la base de toute l'optique non linéaire. Alors, ces processus sont très importants, parce que d'abord, ils apparaissent dans tous les domaines de fréquence, d'une part. D'autre part, ce sont des systèmes simples, des systèmes modèles, pour illustrer, je crois que c'est peut-être l'exemple le plus agréable qu'on puisse trouver, pour illustrer le calcul des effets d'ordre supérieur en mécanique quantique. Également, avec les intensités lumineuses considérables dont on dispose maintenant, on peut arriver dans des régimes où la théorie des perturbations n'est plus suffisante, et donc l'étude de ces processus est un grand stimulant pour développer des traitements non perturbatifs. Enfin, il y a un immense champ d'application pratique. Toute l'optique non linéaire permet d'utiliser ces processus multiphotoniques pour générer des nouvelles fréquences, pour coupler des ondes entre elles, pour guider des ondes, pour corriger des distorsions de phase. Et maintenant, l'optique non linéaire est devenue vraiment un champ d'application extrêmement important. Alors, quand on aborde ce type de champ de recherche, on a deux problèmes fondamentaux à résoudre. Le premier problème, c'est de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique sur un atome donné. Il faut comprendre l'amplitude de transition, la calculer, trouver les caractéristiques de la résonance, où elle est située, comment elle s'élargit, comment elle se déplace, calculer une susceptibilité non linéaire. Il y a un deuxième problème ensuite, qui est le problème de la propagation dans un milieu matériel. Si on a un milieu matériel avec plusieurs atomes qui chacun génèrent une onde de fréquence 2 ou de fréquence 3, harmonique 2, harmonique 3, le problème se pose, comment ces ondes vont-elles interférer et comment une onde macroscopique va se produire, se construire dans le milieu, et ça pose des problèmes divers, comme l'accord de phase, dans quelle direction les phases vont être bien accordées pour que les interférences soient constructives, est-ce que le faisceau lumineux ne peut pas s'autofocaliser si l'indice de réfraction dépend de l'intensité, et il y a par exemple des équations qui sont bien connues maintenant, l'équation de Bloch-Maxwell qui décrivent l'évolution couplée du champ électromagnétique qui se propage dans le milieu et de la réponse des divers atomes qui constituent ce milieu. Dans ce cours, j'insisterai surtout sur le problème numéro 1. Le plan du cours sera le suivant, je vais faire un très bref historique pour commencer, puis je décrirai les processus multiphotoniques dans le domaine des radiofréquences. Comme toujours, le domaine des radiofréquences est particulièrement intéressant parce qu'il est simple. Le nombre de niveaux atomiques à prendre en compte est fini et on peut vraiment comprendre à fond ce qui se passe. Et en fait, c'est dans le domaine des radiofréquences que les processus multiphotoniques ont été observés pour la première fois. Ils permettent de mettre en évidence clairement les lois de conservation et de comprendre l'origine de l'élargissement du déplacement radiatif. Je passerai ensuite, dans le cours de numéro 5, à l'étude des processus multiphotoniques optiques entre états discrets d'un atome. Processus qui sont devenus observables à la suite du développement des sources laser. J'insisterai sur les effets nouveaux qui apparaissent par rapport au domaine radiofréquence, l'importance de la conservation de l'impulsion Et j'introduirai pour discuter ces effets des diagrammes introduits par Christian Bordet qui sont particulièrement commodes, qu'on appelle les diagrammes énergie-intuition. Je parlerai des transitions à deux photons sans effet Doppler, de l'absorption saturée. Et ensuite, dans le cours suivant, à 11h, je continuerai les processus multiphotoniques optiques, non plus entre deux états discrets, mais entre l'état discret et le continuum, l'ionisation multiphotonique, entre deux états du continuum, ainsi de suite, et les effets relativistes. Donc je commence par un bref historique. La première fois qu'on entend parler de processus multiphotonique dans la littérature, c'est un article de Maria Goppert-Meyer en 1931, où elle introduit l'idée d'une transition à deux photons. Elle le calcule. Il faut attendre le début des années 50 pour avoir un article de Hughes et Grabner qui étudiait donc un jet moléculaire de molécules de fluorure de rubidium, et qui étudiaient des transitions électriques sur un tel jet, et ils observaient un groupe de raies à une fréquence moitié de celle qu'on attendait, et donc ils émettent l'hypothèse que c'est peut-être dû à une transition à deux photons du type de celle calculée par Maria Goppert-Meyer. Mais l'évidence n'était pas parfaite, parce que un spectre moléculaire c'est toujours plus compliqué, et il fallait attendre 2 ans ou 3 ans plus tard pour observer à l'école normale dans le laboratoire Cassel-Bruxelles les premières transition à plusieurs photons convaincante. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et d'abord, introduire quelques notations et quelques concepts importants. Considérons, si vous voulez bien, divers sous-niveaux Zeeman, MF, MF plus 1, MF plus 2. MF, c'est la projection du moment cinétique total le long de l'axe Z. En champ magnétique faible, ces trois sous-niveaux sont équidistants. Mais quand on augmente le champ, à cause de la compétition entre l'effet Zeeman et la structure fine ou hyperfine, ce qu'on appelle l'effet Paschenbach ou Bach-Goudsmit, les niveaux ne sont plus équidistants. Et c'est par exemple cette disposition, cet écart-là est plus petit que celui-là. Alors, si on commence, pour simplifier, par supposer qu'on analyse un tel système par un champ de radiofréquence de fréquence variable, on va avoir des transitions à un photon, et MF plus 1 moins EMF égale H bar oméga 1, puis une autre transition, bien sûr, entre MF plus 1 et MF plus 2, et MF plus 2 moins MF plus 1 égale H bar oméga 1, H bar oméga 2. Et puis, si on augmente la puissance du champ de radiofréquence, on va voir apparaître des transitions à deux photons, où l'atome passe directement de MF à MF plus 2, en absorbant deux photons de même fréquence, H bar oméga, avec conservation de l'énergie, et MF plus 2 moins MF égale 2 H bar oméga. Et si le champ de radiofréquence a une polarisation sigma plus, c'est-à-dire, si les photons ont un moment cinétique plus 1 par rapport à ce bar, chacun apporte une unité de moment cinétique, et l'ensemble des deux permet de passer de MF à MF plus 2, c'est-à-dire d'augmenter de 2 unités le moment cinétique. Bien, alors vous voyez que j'ai dessiné ici une ligne en pointillé, et souvent on parle de, quand on présente ces choses-là, on parle de niveau virtuel. Il y a un peu une confusion là, j'aime pas beaucoup cette dénomination, et je voudrais préciser un peu plus clairement les notations maintenant. Et pour ce faire, il est toujours commode de considérer l'ensemble du système global atome plus photon radiofréquence. Considérons donc l'atome dans MF, MF plus 1, MF plus 2, en présence de n photons. Alors comme j'ai ajouté n photons à chacun de ces trois états, les écarts entre les états MFN, MF plus 1N, MF plus 2N, c'est les mêmes que précédemment. Bon, considérons maintenant un autre état, l'atome dans l'état MF, le même qu'ici, mais avec un photon de plus. À ce moment-là, je dois passer de là à une ligne horizontale située à une distance h bar oméga au-dessus. Donc vous voyez que ce niveau que j'ai tracé là, c'est l'emplacement de la ligne en pointillé de tout à l'heure. Donc la ligne en pointillé de tout à l'heure, ce n'est pas un niveau virtuel, c'est le niveau MF, NN, N plus 1. Et je peux en continuer. Considérons maintenant l'atome dans l'état MF avec N plus 2 photons. Si je suis à résonance pour la transition à 2 photons, quand j'ajoute 2 photons à MF N, je passe donc à MF N plus 2, je suis à la même énergie que MF plus 2 N. Donc l'état MF N plus 2, que j'ai dessiné en rouge, est dégénéré avec MF plus 2 N. Et encore dernier point, si je prends maintenant l'état MF plus 1 et que j'ajoute un photon, j'obtiens l'état MF plus 1 N plus 1. Et l'écart d'énergie entre ces deux états, delta E, est le même qu'entre ces deux états. Et vous voyez maintenant que cet écart delta E a une importance grande dans l'étude du processus multiphotonique. En effet, la transition à deux photons correspond au passage de l'atome MFN plus 2 à MF plus 2N. l'atome passe de MF à MF plus 2 en absorbant deux photons. Mais il ne peut pas le faire en un coup. Il est obligé de le faire en deux coups. Il commence à absorber un photon et passer dans MF plus 1 et le nombre de photons diminue d'une unité. Donc il ne peut pas aller directement de MF N plus 2 à MF plus 2 N. Il passe d'abord par MF plus 1 N plus 1. Et ensuite, il passe de MF plus 1 N plus 1 à MF plus 2 N. Donc il passe par un état intermédiaire et l'état intermédiaire n'est pas résonant. Et cette distance-là, c'est le défaut d'énergie dans l'état intermédiaire, qui est aussi celui-là. Donc l'écart entre le niveau pointillé que j'ai défini tout à l'heure et le niveau qui est ici, c'est le défaut d'énergie dans la transition intermédiaire. Et cette transition intermédiaire, comme elle ne conserve pas l'énergie, on l'appelle parfois transition virtuelle. Le système effectue une transition virtuelle, une absorption virtuelle d'un photon, dans un état qui ne conserve pas l'énergie, puis il absorbe un deuxième photon. Et ceci, donc, c'est ce que je répète ici, donc le niveau en pointillé, c'est un niveau virtuel, et l'atome dans MF ne peut pas aller directement dans cet état, il passe d'abord par cet état intermédiaire, il fait une transition virtuelle, et il y a un défaut d'énergie. Alors quand il y a un défaut d'énergie, à cause de la relation d'incertitude temps-énergie, on peut ne pas se rendre compte si le temps que dure cette transition est suffisamment court. Donc le temps que dure le passage intermédiaire par l'état non résonant, la durée de la transition virtuelle est de l'ordre de h bar sur delta e. Voilà un autre temps caractéristique du problème. Dans une transition multiphotonique, le temps caractéristique des états intermédiaires, c'est h bar sur le défaut d'énergie. Alors, ceci me permet de dire que dans tout le domaine de l'optique quantique, on utilise en général deux types de représentations diagrammatiques. Celle-là, que j'ai utilisée déjà, qui a l'avantage de montrer clairement le défaut d'énergie dans l'état intermédiaire. Et puis il y a une autre représentation type diagramme de Feynman où l'atome passe dans MF, part de MF, absorbe un photon, passe dans MF plus 1, puis un deuxième photon passe dans MF plus 2. Ça montre clairement quel est l'état intermédiaire, mais on ne voit pas clairement sur cette figure quel est le défaut d'énergie. Donc il est bon de passer d'un diagramme à l'autre. Après ce point de vocabulaire, je reviens à mes transitions à plusieurs photons, et je suppose maintenant que le travailler à champ fixe et à fréquence variable, il est plus commun d'ailleurs dans les expériences d'avoir une fréquence fixe et de balayer le champ. Alors, j'ai dessiné ici, en fonction du champ magnétique B0, les trois sous-niveaux MF, MF plus 1, MF plus 2. Et la fréquence du champ de radiofréquence est fixe. Vous voyez qu'il y a une résonance à un photon entre MF et MF plus 1 à cette valeur du champ, H bar oméga. Il y a une autre résonance à un photon entre MF plus 2 et MF plus 2 à cette valeur du champ qui est plus élevée, parce que c'est à cette valeur du champ plus élevée que la distance entre ces deux niveaux est égale à H bar oméga. Et puis, entre ces deux résonances à un photon, apparaît la résonance à deux photons, ici, où on passe de MF à MF plus 2 par absorption de deux photons. Donc, alors que quand on travaille à champ fixe, fréquence variable, les trois résonances, 2 à 1 photon, 1 à 2 photons, apparaissent à des fréquences différentes, quand on travaille à sa fréquence fixe et à champ variable, les deux résonances à un photon apparaissent à deux valeurs du champ et la résonance à deux photons apparaît intermédiairement. Bien, alors, je passe maintenant à un cas concret, réel, le cas de l'atome de sodium, qui était le cas qui était étudié expérimentalement dans l'état F, dans le niveau hypersain F égale 2, qui a donc 5 sous-niveaux Zeeman, en champ magnétique non nul, donc les sous-niveaux ne sont pas équidistants, et voyez ici les 5 sous-niveaux Zeeman en fonction du champ magnétique. Alors, si je le champ magnétique B0. Si je regarde d'abord les transitions à un photon, vous voyez que compte tenu de la disposition des niveaux d'énergie qu'il y a ici, les quatre résonances que j'appelle A, B, C, D vont être situées à quatre valeurs différentes du champ croissante. Alors, si on augmente l'intensité du champ de radiofréquence, vont apparaître ensuite des transitions à deux photons, entre moins 2 et 0, entre moins 1 et plus 1, entre 0 et plus 2, par absorption de deux photons, qui seront situés chacune entre la résonance petit a entre grand A et grand B, la résonance petit b entre grand B et grand C, la résonance petit c entre grand C et grand D. Et puis si j'augmente encore l'amplitude du champ de radiofréquence, je vois apparaître deux résonances à trois photons, entre moins 2 et plus 1, et entre moins 1 et plus 2. Et chaque fois, bien sûr, il y a conservation de l'énergie et du moment cinétique, parce que chaque photon amène une énergie h bar oméga et un moment cinétique plus 1. Voilà donc ce spectre qu'on attend. Et voilà le résultat donc, de l'expérience faite par Bernard Cagnac, et Jean Brossel et Alfred Kastler, publiée en 1953. où on voit quatre spectres de résonance magnétique. D'abord, la courbe du haut, à puissance de radiofréquence faible, où on voit les quatre résonances à un photon, A, B, C, D. Si je reviens en arrière, bon, je crois que je reviens avec ça. Si je reviens en arrière, ce sont les quatre résonances ici en bleu. Puis, si on augmente la puissance du champ de radiofréquence entre les quatre résonances ABCD, on voit apparaître trois résonances plus fines qui sont les résonances à deux photons, puissance moyenne, et puis puissance plus forte. Entre les résonances à deux photons, on voit apparaître les deux résonances bêta et alpha et bêta, les résonances à trois photons. En fait, ça ne s'est pas passé comme je vous dis ici, où on présente d'abord la théorie et puis on fait l'expérience. Quand, bon, Cagnac pourrait peut-être, Bernard pourrait peut-être témoigner, quand ce spectre s'est pris, qu'on augmentait l'intensité de la fréquence, on voyait apparaître ces résonances supplémentaires qui apparaissaient, et ça a été, je crois, le mérite de Jean Brossel de comprendre l'origine de ces résonances en termes de conservation de l'énergie et du moment cinétique. Alors, on peut alors se demander la chose suivante, au lieu de faire des transitions entre MF et MF plus 2 en absorbant deux photons, est-ce que je ne peux pas faire une transition à deux photons entre MF et MF plus 1 en absorbant deux photons de fréquence égale à la moitié de l'écart d'énergie qui sépare MF et MF plus 1. Et donc je passe maintenant aux transitions à plusieurs photons entre deux niveaux MF et MF plus 1. Voilà une transition à un photon, une transition à deux photons, quand le champ magnétique est tel que 2H bar oméga égale l'écart d'énergie entre ces deux états, à trois photons, à quatre photons. Et alors là, la conservation du moment cinétique, je pense que j'ai sauté un transparent. Je passe au transparent suivant. Là, il faut faire attention. Si le champ magnétique est dirigé le long de l'axe Z, et si le champ de radiofréquence petit b, cosinus oméga t, est oblique par rapport au champ Z, c'est-à-dire qu'il n'est ni parallèle à Z, ni parallèle à X, à ce moment-là, il a une composante B parallèle, une composante B perpendiculaire. La composante B parallèle, d'après ce que j'ai dit dans les premiers cours, je crois, les photons qui ont une polarisation linéaire par rapport au champ, ce sont des photons pi, qui n'ont pas de moment cinétique. Le moment cinétique par rapport au champ est nul. Par rapport à Z est nul. Par contre, les photons associés à la composante B perpendiculaire, c'est B perpendiculaire. Une polarisation linéaire, ça peut être décomposé une circulaire droite, une circulaire gauche. Ça a des moments cinétiques plus H bar ou moins H bar. Donc, la conservation du moment cinétique va être ici un peu plus subtile. Et vous voyez que, si je reviens en arrière, pour aller de MF à MF plus 1, il faut gagner un moment cinétique plus 1, et ça peut être fait en absorbant un photon sigma plus et un photon pi. Donc le champ radiofréquence doit être oblique pour avoir les deux types de photons. Quand on absorbe trois photons, on peut avoir un photon sigma plus, une unité de moment cinétique et deux photons pi, chacun 0, ou deux photons sigma plus et un photon sigma moins. Donc cette résonance peut être observée avec un champ oblique et aussi avec un champ perpendiculaire, un champ radiofréquence perpendiculaire au champ statique. Et ainsi de suite. Et vous voyez que chaque amplitude maintenant est une somme de plusieurs amplitudes correspondant à toutes ces possibilités, amplitudes qui vont bien sûr interférer. Alors voilà un exemple de résultat obtenu par Jean Margerie et Jacques Vinter dans sa thèse de doctorat, un peu plus tard que les résultats précédents, sur les résonances à plusieurs photons entre MF et MF plus 1. Vous voyez la résonance à puissance faible, vous voyez la résonance oméga 0 égale oméga, et vous voyez quand même la résonance oméga 0 égale 2 oméga et 3 oméga, puis on augmente l'amplitude du champ de radiofréquence, on voit les résonances se déplacer, s'élargir, on voit la résonance à 3 oméga qui pousse, et puis la résonance à 4 oméga qui apparaît ici. Ici on observe tout le spectre oméga 0 égale 1 oméga parce que le champ est oblique. On a donc toutes les possibilités de transition. Par contre, si le champ est linéaire, voilà un exemple obtenu dans la thèse de troisième cycle. Je crois que c'était une après-midi, ce spectre était pris. C'était très commode à obtenir. Sur le mercure 199, avec un champ de radiofréquence perpendiculaire au champ magnétique. Et on voit apparaître, donc on augmente le voltage de la bobine de radiofréquence, la résonance à un photon, puis la résonance à trois photons qui apparaît, puis qu'on augmente l'amplitude, se déplace et s'élargit. La résonance à 5 photons, la résonance à 7 photons, et on voit apparaître la résonance à 9 photons ici. Donc on voit apparaître tout le spectre impair de résonance à plusieurs photons, et on voit clairement ici sur cet exemple qu'elles apparaissent, et puis quand on augmente l'amplitude, elles se déplacent et elles s'élargissent. Donc j'aborde maintenant ce problème intéressant, comment est-ce qu'on peut comprendre simplement l'élargissement et le déplacement de ces transitions multiphotoniques. Elles apparaissent clairement sur les courbes expérimentales, et on peut en tenir compte par un traitement classique du champ de radiofréquence, c'est ce qu'avait fait Jacques Vinter dans sa thèse, mais je crois qu'il est beaucoup plus simple, bien que non nécessaire, il est beaucoup plus simple d'adopter un traitement quantique, parce que quand on adopte un traitement quantique du champ, le système global est décrit par un hamiltonien indépendant du temps, et c'est plus facile de faire de la théorie des perturbations sur un hamiltonien indépendant du temps que sur un hamiltonien dépendant du temps. On peut ensuite introduire des vrais niveaux d'énergie, et regarder comment ces niveaux se déforment, et on a une vue globale des phénomènes. C'est ce qu'on appelle les niveaux d'énergie de l'atome habillé par les photons. Et alors, dans ce point de vue, les résonances multiphotoniques apparaissent comme associées à des anticroisements de niveaux. L'anticroisement de niveaux est une notion centrale en mécanique quantique, et ici, elle est particulièrement bien illustrée. Et en plus, en regardant comment ces niveaux se déforment, on peut avoir des idées simples sur des effets non perturbatifs, des effets qui ne peuvent pas être compris de manière perturbative. Alors, j'explique ça un peu plus en détail. D'abord, quels sont les niveaux d'énergie du système global, quand on quantifie tout, quand on a une transition à P photons, les deux niveaux de départ et d'arrivée, le niveau de départ, c'est l'atome dans l'état A en présence de N plus P photons, et l'état final, c'est l'atome dans l'état bêta, atome dans l'état B, en présence de N photons. P photons ont disparu. Et il y a résonance quand les énergies de ces deux états coïncident, c'est-à-dire quand EA plus PH bar oméga égale EB, ou encore comme E alpha égale E bêta, j'appellerai E0 l'énergie commune de ces deux états. Donc les deux états final et initial ont la même énergie, E0, quand oméga ou B0, suivant qu'on balaye le champ ou la fréquence, ont la valeur correspondant à la résonance à P photon. Alors évidemment, pour aller de N à N plus P, je ne peux pas le faire en un coup, il faut que je passe par un certain nombre d'états intermédiaires, par P moins 1 états intermédiaires. Et j'appellerai gamma, les états intermédiaires, où l'atome est dans un autre état, en général C, avec un nombre de photons N' compris entre N plus P et N. Et si l'état intermédiaire est non résonant, E gamma sera différent de E alpha et de E bêta. Alors, si je suis dans le cas où il n'y a pas d'état intermédiaire résonant, la multiplicité des deux états alpha et bêta est bien isolée des autres. Ce sont deux états qui ont des énergies très proches, et tous les autres états du système global sont beaucoup plus loin. Donc il est intéressant de se concentrer sur cette multiplicité. Alors, quelle est l'amplitude de transition? L'amplitude de transition, c'est l'amplitude de probabilité partant de alpha à l'instant 0, d'arriver dans bêta après un instant t, donc où u de t est l'opérateur d'évolution. C'est-à-dire an plus p, u de t, bn. Alors, on peut montrer, et je vous renvoie au livre Processus d'interaction, dans le chapitre 3, on peut montrer que plutôt que de travailler sur U, il est plus commun de travailler sur, en quelque sorte, une sorte de transformé de Fourier de U qu'on appelle la résolvante, G2N, et on peut démontrer que l'élément de matrice de U entre alpha et bêta est relié à l'élément de matrice de l'opérateur 1 sur Z moins H, où Z est la variable complexe et H l'hamiltonien, sans prendre cet élément de matrice, J bêta alpha de Z, de le multiplier par e puissance moins I ZT sur H bar sur 2pi, et d'intégrer le long de ce contour tout à fait juste au-dessus de l'axe réel. Et si les deux états initial et final sont bien isolés, s'il n'y a pas de résonance intermédiaire, ce qu'il faut calculer finalement, c'est la restriction de U de T dans le sous-espace alpha-bêta, ou ce qui revient en même, la restriction de G de Z dans le sous-espace alpha-bêta, c'est-à-dire P, G, P, où P c'est le projecteur sur le sous-espace alpha-bêta. Et on peut calculer exactement donc cette restriction en moyenne d'opérateurs de projection. Je ne vais pas vous embêter avec les calculs ici au tableau, je vous renvoie donc à cette référence pour plus de détails. Le résultat est très simple. Ce qu'on trouve, on trouve une formule analytique. On trouve que PGP, c'est P, opérateur de projection, sur Z moins PH0P, la restriction de l'hamiltonien non perturbé dans P, moins PRZ de P, où RZN, c'est un opérateur qui s'écrit de cette manière, V plus VQ, sur Z moins QHQ moins QVQ, ah, puis je m'excuse, j'ai oublié ici V, bien sûr, il y a un V qui manque ici, hein, V, où Q c'est le projecteur sur le sous-espace complémentaire du sous-espace sur lequel P projette. Et vous voyez que si vous prenez cet opérateur qui a l'air compliqué et que vous le développez en puissance de QVQ, Oui, que R de Z, c'est V plus VQ sur Z moins A0V, plus VQ sur Z moins A0V, VQ sur Z moins A0V, et ainsi de suite. Et vous voyez que la structure des éléments de matrice de Z, de R de Z est très simple. C'est un produit d'éléments de matrice de V. On part de l'état initial, on va à un état intermédiaire, puis un autre état intermédiaire, puis un autre état intermédiaire, et on finit à l'état final. Et entre deux états intermédiaires, on a un dénominateur d'énergie qui est 1 sur Z moins l'énergie de l'état intermédiaire. Donc c'est un produit d'éléments de matrice de V et de dénominateurs d'énergie, tous les dénominateurs d'énergie étant relatifs à des états intermédiaires qui, par définition, sont non résonnants. Donc tous les dénominateurs d'énergie sont grands. Et si vous voyez maintenant cette formule, si je pouvais ignorer la dépendance en Z de cet opérateur, je montrerai à ce moment-là que P G de Z, P, c'est P moins P sur Z, moins un opérateur indépendant de Z, moins un autre opérateur indépendant de Z. À ce moment-là, PA0P plus PRP aurait la signification d'un Hamiltonien défini à l'intérieur du sous-espace alpha bêta, ce qu'on peut appeler un Hamiltonien effectif. Donc si je pouvais négliger la dépendance en Z de R de Z, cet opérateur qui est au dénominateur ici aurait la signification d'un Hamiltonien effectif, mais décrivant la dynamique à l'intérieur des deux espaces qui sont importants, des deux états qui sont importants, l'état initial et l'état final. Alors, est-ce qu'on peut négliger cette dépendance? La réponse est oui, pour la raison suivante, c'est que P, G de Z, P, c'est, G de Z, c'est 1 sur Z moins H. Donc, le dénominateur va s'annuler à toutes les valeurs propres de l'Hamiltonien complet H. Donc, P, G de Z, P va avoir des pôles situés aux valeurs propres de H, il va prendre des valeurs importantes au voisinage des valeurs propres non perturbées, puisque si je fais un calcul perturbatif, les valeurs propres perturbées vont être proches des valeurs propres non perturbées. Donc, les pôles vont être au voisinage de 0. Toutes les autres valeurs propres et gamma de 0 sont très éloignées. Donc, tous les dénominateurs d'énergie qui apparaissent dans les éléments de matrice de R de Z vont tous être grands, parce que les autres valeurs propres de 0 sont loin. Et donc, quand je vais me balader au voisinage des pôles de H, ils ne vont pas varier de manière considérable. Donc, une approximation qu'on peut faire, on peut remplacer dans tous les dénominateurs d'énergie non résonnants, Z par E0, ou E0, l'énergie commune à alpha et bêta à résonance. Donc on peut remplacer dans G de Z, on peut remplacer PRZ de P par E0 plus I epsilon, où E0 est l'énergie commune à alpha et bêta, et I epsilon c'est parce que je dois faire l'intégration au-dessus de la créelle. Et à ce moment-là, de manière approchée, je peux écrire que P G de Z P, c'est égal à P sur Z moins P H0P moins R bar, où R bar, c'est cet opérateur, la restriction dans le sous-espace alpha-bêta de l'opérateur R de E0 plus I epsilon. Donc j'ai ramené mon problème à un problème à deux niveaux, avec un Hamiltonien effectif. Alors, pour comprendre comment ça se passe, prenons d'abord le cas simple de la résonance à un photon, où il n'est pas besoin d'aller au-delà de la théorie d'ordre 1. Alors, si on a un problème à un photon, résonance à un photon, pour un spin 1/2, on a une transition entre moins 1/2 n plus 1 et plus 1/2 n, l'élément de matrice de V étant V bêta alpha, c'est la fréquence de Rabi. Et à l'intérieur du sous-espace bêta 1/2 n, alpha égale moins 1/2 n plus 1, l'évolution est décrite sans approximation, là, hein, parce que j'ai un champ de fréquence sigma plus qui coupe ces deux niveaux et qui ne fait intervenir aucun autre état, par la matrice E bêta et alpha, V bêta alpha, V alpha bêta. Et puis je suppose que je fais varier E alpha et bêta linéairement à moyenne d'un champ magnétique, et comment varie l'amplitude alpha U de T bêta quand, avec E bêta moins E alpha. Ça c'est le problème, le B à bas de la mécanique quantique quand on étudie un problème à deux niveaux. La réponse est simple, voilà mes deux niveaux E alpha et E bêta variant linéairement avec un champ magnétique. Voilà la matrice que je dois diagonaliser avec l'élément non diagonal V alpha bêta qui est la moitié de H bar oméga 1 oméga 1 étant la fréquence de Rabi. Quand je diagonalise cette matrice, j'obtiens ce que j'appelle un anticroisement. Les deux niveaux se repoussent, c'est les niveaux que j'ai dessinés en rouge ici, et ils forment les deux branches d'une hyperbole avec une distance ici qui est deux fois l'élément de matrice non diagonale, 2 V alpha bêta. Alors, connaissant les valeurs propres et les états propres perturbés, je peux partant de alpha développer sur les états propres perturbés, faire évoluer avec les exponentielles d'évolution complexe et reprojeter sur bêta, et je calcule la probabilité P alpha bêta à l'instant T, c'est oméga 1 carré sur oméga bêta alpha carré plus oméga 1 carré, sinus carré de racine carré de oméga bêta alpha carré plus oméga 1 carré, t sur 2. C'est la fameuse précession de Rabi. Et si je moyenne ça sur t avec une durée de vie 1 sur gamma, il faut que je fasse l'intégrale de ceci multiplié par gamma et puissance moins gamma t, ça se calcule exactement, et on trouve une Lorentzienne, 1 demi, de oméga 1 carré sur oméga 1 carré plus gamma 2 plus oméga bêta alpha carré, une résonance centrée au point de croisement, et dont la largeur, c'est le carré de la largeur, c'est la somme du carré de la largeur naturelle, de la durée de vie, de la largeur naturelle du niveau, plus l'élargissement radiatif, le carré de la fréquence de Rabi. Donc, je comprends que quand j'augmente l'amplitude du champ de fréquence, la résonance va s'élargir, c'est l'élargissement radiatif. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand j'ai une résonance à P photon? Quand j'ai une résonance à P photon, ce qu'il faut maintenant que je diagonalise, c'est la matrice E alpha et bêta, et puis la matrice R, qui est R alpha alpha, R bêta bêta, R bêta alpha, R alpha bêta. C'est les quatre éléments de la matrice R représentant l'hamiltonien R bar, avec l'approximation de remplacer Z par E0 plus I epsilon. Alors, qu'est-ce que c'est que R alpha alpha, R bêta bêta? Je pars de alpha, je vais à un état intermédiaire et je reviens à alpha. Donc R alpha, ça va représenter le déplacement du deuxième ordre perturbation dû au couplage entre l'état alpha et tous les états qui ne sont pas résonnants avec lui, c'est-à-dire tous les états autres que l'état bêta. Donc R alpha alpha et R bêta bêta représentent les déplacements à l'ordre 2 des états initial et final dus à l'absorption et la réémission virtuelle d'un photon. Et maintenant, la résonance va avoir lieu quand ces deux états-là, ces deux valeurs seront identiques, c'est-à-dire quand E alpha plus R alpha alpha égale E bêta plus R bêta bêta. Donc la résonance aura lieu quand les deux niveaux déplacés chacun par l'interaction non résonante avec le champ auront la même énergie. Et ensuite, le couplage R bêta alpha qui fait intervenir T éléments de matrice de V et P moins 1 dénominateur d'énergie va coupler les deux états, va donner maintenant un anticroisement dont la distance entre les deux branches de l'hyperbole étant maintenant de l'ordre de R alpha bêta, c'est-à-dire d'ordre P en oméga 1. Au lieu d'être oméga 1 comme tout à l'heure, elle va être oméga 1 à la puissance P. C'est ce que j'ai dessiné ici. Voilà les deux états alpha bêta. Voilà les états E alpha plus R alpha alpha et bêta plus R bêta bêta. Et puis voilà maintenant qu'on tient compte de R alpha bêta, on obtient un anticroisement d'ordre supérieur, un anticroisement déplacé, avec maintenant une distance entre les deux branches de l'hyperbole qui va être en oméga 1 à la puissance P, et non plus en oméga 1. Donc, quand j'augmente l'amplitude de radiofréquence, la résonance va se déplacer en oméga 1 carré, et sa largeur, au lieu d'être en oméga 1 carré, elle va être en oméga 1 à la puissance P au carré, c'est-à-dire en oméga 1 à la puissance 2P. Et on peut la calculer exactement, parce que c'est, on connaît tous les éléments de matrice de V, tous les dénominateurs d'énergie, c'est ce qui est fait dans le processus d'interaction, et on peut la calculer exactement et très simplement par cette méthode, les élargissements et les déplacements radiatifs des résonances à plusieurs photons. Alors ceci me permet d'ailleurs de comprendre un effet qui apparaît en résonance magnétique, que l'on appelle l'effet Bloch-Siegert. L'effet Bloch-Siegert est un déplacement de la résonance magnétique à un photon, quand au lieu d'utiliser un champ sigma+, on utilise un champ de polarisation linéaire. Alors, il est très facile à comprendre dans ce point de vue, de la manière suivante. Si on utilise un champ de radiofréquence polarisation sigma, linéaire par rapport à l'axe X, le champ magnétique étant parallèle à l'axe Z, la mutation d'interaction, ça va être Sx A plus A croix, et comme Sx est S plus S moins sur 2, on va avoir S plus S moins A plus A croix, et l'hamiltonien d'interaction va comporter quatre termes, des termes A, S+, A+, S-, mais également des termes A+, S+, A-, S-, qui n'existent pas quand on a un champ de radiofréquence purement sigma+. Et ce sont ces termes nouveaux qui sont dus au fait que l'atome dans le niveau moins 1,5 peut absorber un photon sigma+, et passer dans le niveau plus 1,5, mais il peut aussi absorber un photon sigma-. Parce que les photons sigma moins sont là, et plutôt, quand l'atome est dans l'état sigma plus, dans l'état plus, si le champ est sigma plus, il peut émettre de manière simulée un photon sigma plus et passer dans l'état moins, mais il peut aussi absorber un photon sigma moins, passer dans l'état moins un demi, c'est violemment non résonnant. C'est peut-être plus facile à comprendre quand on représente le diagramme d'énergie. Et je vais dire tout de suite avant de commencer que les effets nouveaux qui apparaissent à cause de ces termes sont d'abord le déplacement de Bloch-Siger, de la résonance oméga 0 égale oméga, et puis tout le spectre impair de transition multiphotonique que j'ai décrit tout à l'heure, attention à 3 photons, à 5 photons, à 7 photons. Par contre, les croisements de niveau en 2P oméga demeurent des croisements parce qu'il est impossible de réaliser delta MF égale plus 1 avec un nombre pair de photons, sigma plus ou sigma moins. Ça va apparaître plus clairement quand on dessine, quand on fait des petits dessins. Voilà les niveaux d'énergie non perturbés d'un spin 1/2 en présence de champ de radiofréquence. Voilà les états plus n moins n, les états plus n plus 1 moins n plus 1, les états moins n plus 1 moins n moins 1, et ainsi de suite. On a donc toute une série de droites, de pentes plus 1 et de pentes moins 1, séparées par l'énergie du champ de radiofréquence h bar oméga. Alors, vous voyez, je me concentre ici sur le croisement entre plus n et moins n plus 1. L'atome dans l'état moins n plus 1 peut absorber un photon sigma plus et passer dans l'état plus n. Donc, ces deux états sont couplés. Ils sont couplés, et le couplage est résonant à ce point parce que les deux états ont la même énergie. Ça, c'est la résonance à un photon. Mais l'état moins n plus 1 est couplé à l'état plus n plus 2 parce qu'on change à la fois moins en plus et n plus 1 en n plus 2 par la composante sigma moins du champ. Vous voyez à ce moment-là que ce couplage-là est non résonant, mais il est possible quand le champ de radiofréquence a une polarisation sigma. Et ce couplage entre cet état et cet état qui est au-dessus va déplacer vers le bas l'état moins n plus 1. Donc, sous l'effet de ce couplage, l'état moins n plus 1 va déplacer vers le bas. Regardons maintenant le niveau plus n. Le niveau plus n est bien sûr couplé au niveau moins n plus 1, ça c'est la résonance à un photon en polarisation sigma plus. Mais le niveau plus n est aussi couplé au niveau moins n moins 1. On fait passer de plus à moins delta m égale moins 1 et de n à n moins 1 delta m égale moins 1. Ce couplage existe quand le champ est en polarisation sigma. Il est non résonant et vous voyez que ce couplage ici, comme le niveau est plus bas, il va repousser vers le haut le niveau plus n et le niveau plus n va être déplacé vers le haut. Et vous voyez qu'à ce moment-là, les deux niveaux qui se croisaient, l'un est déplacé vers le bas, l'autre est déplacé vers le haut. Donc le croisement entre ces deux niveaux va être déplacé vers la gauche et ça c'est le déplacement de Bloch-Siger qui se calcule en un tour de main. C'est deux formules de perturbation du second ordre. Donc la résonance est déplacée vers les champs les plus bas. Et ainsi de suite. Et j'ai dessiné ici le diagramme d'énergie des niveaux habillés, où on voit donc l'anticroisement en oméga 0 égale oméga, correspondant à la résonance à un photon. L'anticroisement, beaucoup plus petit parce qu'il est d'ordre 3, en oméga 0 égale 3 oméga, correspondant à la résonance à 3 photons, et ainsi de suite. Et vous voyez par contre que les croisements en oméga 0 égale 2 oméga, 4 oméga, demeurent des croisements. Parce que si on absorbe 2 photons sigma, où ils sont les 2 sigma plus et delta m égale 2, où ils sont les 2 sigma moins et delta m égale moins 2, où l'un est sigma plus, l'autre sigma moins et delta m égale 0. Avec 2 photons, on ne peut pas faire delta m égale 1. Donc ça reste un croisement, les deux niveaux ne sont couplés à aucun ordre. Par contre, ils sont déplacés par couplage non résonant avec le sens état, et le croisement qui était ici se déplace vers la gauche. Et vous voyez que si on augmente l'amplitude du champ, ce point-là, ce croisement va se déplacer de plus en plus vers la gauche, cet anticroisement va croître de plus en plus, cet anticroisement va croître de plus en plus, et on peut comprendre ainsi qualitativement la déformation du diagramme d'énergie. J'ai dessiné ici, j'ai repris ici le niveau qui est en très gras ici, ce niveau habillé là, je dessine comment il se déforme quand on augmente l'amplitude du champ de radiofréquence. Le voilà à amplitude du champ de radiofréquence faible. Quand on augmente l'amplitude du champ, le croisement pair se déplace vers la gauche. Comme l'anticroisement ici augmente, ce niveau s'aplatit. Le croisement 4 oméga se rapproche. Et puis vous voyez que ce point-là va se rapprocher tellement de l'origine que le niveau va partir avec une pente nulle. Et là, on retrouve ce que j'avais expliqué dans, je crois, le cours de numéro 4, l'annulation du moment magnétique pour certaines valeurs de l'amplitude du champ de radiofréquence. L'annulation du moment magnétique correspond à l'arrivée en champ nul du croisement oméga 0 égale 2 oméga. Il a été déplacé tellement vers la gauche que, à ce moment-là, le niveau part avec une pente nulle, puis il part avec une pente négative. À ce moment-là, c'est le niveau 4, le croisement 4 oméga, qui va arriver dans ce point, qui va faire une deuxième annulation, c'est le deuxième zéro de la fonction de Bessel, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ceci donne une vue d'ensemble de ce qui se passe dans un régime non perturbatif. On ne peut pas se limiter à faire de la théorie des perturbations. Je signale d'ailleurs que ces courbes en trait plein sont des courbes calculées par la diagonalisation de la Hamiltonienne que j'écris tout à l'heure en tronquant la matrice au-delà d'un certain ordre. Et les points sont des points expérimentaux, sont mesurés par pompage transversal en lumière modulée, je reviendrai dans la suite sur ce point, qui permet de mesurer les fréquences propres de l'atome à billes. Et vous voyez qu'il y a un excellent accord entre les prédictions théoriques et les observations expérimentales. C'est ça, c'est dans la thèse de troisième cycle de Claire Landré, qui est maintenant Claire Lhuillier. Bon, donc, première conclusion, les processus multiphotoniques dans le domaine des radiofréquences sont extrêmement intéressants du point de vue pédagogique. Ils permettent de comprendre l'origine de la résonance en termes de conservation, loi de conservation de l'énergie du moment cinétique. Et la simplicité du problème, le fait qu'il y a un nombre fini de niveaux d'énergie atomique, permet de faire les calculs jusqu'au bout et de comprendre de manière quantitative les déplacements élargissements radiatifs, et permet également d'avoir un aperçu non perturbatif sur les limites de haute intensité. Je passe maintenant, donc dans la deuxième partie de ce cours, au processus multiphotonique en trait plein discret, qui consacrerait la fin de ce cours et le cours suivant à 11h. Et je commence d'abord par les processus multiphotoniques optiques entre états discrets. Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? D'abord, ils n'ont pu être observés qu'à partir du moment où on a disposé de sources optiques suffisamment intenses, les lasers. Et la première expérience, je crois que ça a été une expérience de Kaiser et Garrett, qui ont observé une excitation à deux photons avec des lasers à rubis dans des cristaux de fluorure de calcium. Ça date de 61. Puis quelques mois après, la première observation sur un atome libre, un gaz, transition à deux photons dans une vapeur de césium, l'atome passant de 6,5 à 9,3, absorption à deux photons, suivi, détecté par la fluorescence à une longueur d'onde, à 5847 angstroms, donc dans l'état réémis par l'atome qui a été excité à deux photons dans cet état. Ça, c'est Abela, donc en 62, qui publie cette expérience. Puis après, ça se précipite. Et peut-être avant de commencer à discuter un certain nombre de choses, je voudrais dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le domaine optique par rapport au domaine de radiofréquence. Quels sont les faits nouveaux dont il faut tenir compte maintenant de manière précise. D'abord, dans le domaine de radiofréquence, l'impulsion à chenille sur C est négligeable. On laisse tomber complètement l'effet Doppler. L'effet Doppler est très petit dans les domaines de radiofréquence, on n'en tient pas compte. Par contre, dans le domaine optique, l'effet Doppler est important, et donc il faut tenir compte de l'effet Doppler pour la condition de résonance. Les échanges d'impulsions entre atomes et photons ne sont pas négligeables comme dans le domaine de radiofréquence. Il faut donc ajouter à la loi de conservation de l'énergie du moment cinétique la conservation d'impulsions. D'ailleurs, ceci est très intéressant parce que, comme je vais vous le montrer, des processus à plusieurs photons peuvent être utilisés pour supprimer les échanges d'impulsions, pour les rendre égales à zéro, et pour donc pour supprimer l'effet Doppler dans le domaine optique. Et de même aussi l'effet de recul. Troisième point, l'émission spontanée n'est pas négligeable dans le domaine optique. Alors que dans le domaine de radiofréquence, les deux niveaux de la spin 1/2, la durée de vie associée à une transition de radiofréquence est de plusieurs années, on peut l'oublier, alors que dans le domaine optique, ce n'est pas vrai, donc il faut tenir compte de l'émission spontanée. Et dans un processus multiphotonique, on peut avoir un mélange de photons absorbés émis de manière simulée et émis de manière spontanée. Il faut introduire des photons émis de manière spontanée. Enfin, il y a une beaucoup plus grande richesse de niveau atomique. On peut considérer des transitions multiphotoniques entre états discrets et continuum, c'est l'ionisation à plusieurs photons, entre deux états du continuum, c'est l'ionisation au-dessus du seuil, et avec des électrons libres, on arrive dans le domaine relativiste. Alors, pour aborder ce problème, je crois qu'il y a un type de diagramme que je trouve personnellement particulièrement simple et commun, c'est les diagrammes énergie-impulsion, donc je crois utilisés intensivement par Christian Bordet, qui sont les suivants. Ils sont particulièrement communs pour comprendre ce qui se passe quand on échange les échanges d'impulsion entre atomes et photons, quand la vitesse de l'atome et la direction du photon sont soit parallèles, soit antiparallèles. Alors, pour les états atomiques, à la limite non relativiste, on dessine des paraboles parce que la relation qui existe entre l'énergie et P, c'est une relation parabolique, est égale P2 sur 2m, et on a une parabole pour chaque état atomique, l'état inférieur, l'état supérieur. Donc, je dessine un ordonné E, un abscisse P. Pour les photons, La relation entre EP, c'est E égale CP, donc c'est des droites de forme C ou moins C, suivant que le photon se propage comme ça, dans la direction opposée. Alors, regardons maintenant avec cette représentation, on voit tout de suite la possibilité de supprimer l'effet Doppler et l'effet de recul par absorption à deux photons se propageant sans s'opposer. En effet, prenons deux photons se propageant sans s'opposer, et regardons ce qui se passe quand il y a la condition de résonance et satisfaite entre un état atomique inférieur A et un état atomique supérieur B. Donc on part d'un état d'impulsion quelconque, P, les deux paraboles se translatent l'une de l'autre, hein, simplement, on absorbe un photon qui se propage dans cette direction, donc une droite de pente plus C ici, puis un deuxième photon de pente moins C, les deux photons ont la même énergie, donc vous voyez qu'on arrive ici à un point qui a la même abscisse, puisqu'on est allé une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, et on a augmenté de 2 h bar oméga. Donc on est passé d'un état A, B, A, P, à l'état B, P avec le même P. Parce que la somme des deux impulsions absorbées sur l'un photon et sur l'autre se compense à zéro. Et cela, c'est vrai quel que soit l'état P de départ. Donc il n'y a plus d'effet Doppler, il n'y a plus d'effet de recul. Donc ça, c'était une idée qui a été très très brillante, développée indépendamment par l'équipe de chez Botaïev, à Novosibirsk, et par Bernard Cagnac à Paris. Alors, quelques exemples. Alors ça, c'est très, très, très sympathique parce que ça permet d'obtenir une résonance qui ne dépend plus de la vitesse, donc qui a une largeur, qui est la largeur naturelle d'une université, et puis qui va être superposée à un piédestal correspondant à la possibilité qu'a l'atome d'absorber deux photons du même sens, dans ce sens-là, ou deux photons dans ce sens-là. Et ça permet donc de faire une spectroscopie subdoppler. Et voilà par exemple un exemple de résultat expérimental obtenu donc au LKB par François Birabin, Bernard Cagnac et Gilbert Lambert sur la transition 3S-5S du sodium, où on voit les deux transitions hypersines très clairement séparées. Ici on a 300 MHz, donc la largeur c'est de l'ordre de grandeur de la largeur naturelle. Le piédestal est tellement large ici qu'on ne le voit pas. Et ces processus ont pu être généralisés, non pas à deux photons mais à P photons. Il faut que K1 plus K2 plus KP égale 0. Donc si on s'arrange pour que la somme des vecteurs K soit nulle, il n'y a plus d'échange d'impulsion, il n'y a plus d'effet Doppler, il n'y a plus d'énergie de recul. Alors bien sûr, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand il y a deux états qui sont couplés dans la multiplicité à deux niveaux qui sont résonants, il y a les autres niveaux non résonants. Quand on fait une transition de deux photons, on passe par un état intermédiaire qui n'est pas résonant, et ça provoque des déplacements lumineux de l'état initial et de l'état final. Et si on fait une mesure de haute précision, il faut en tenir compte. Et je donne ici un exemple récent, je crois de plus récent, de mesures faites dans l'équipe, toujours la même équipe, François Pirabin, Carla Cagnac, Gilbert Lambert, des transitions 2S, Lucille Julien, 2S, 8S, 8D de l'hydrogène. Alors, l'avantage de ces transitions, c'est qu'elles sont très fines, parce que l'état 2S est métastable, donc il a une durée de vie très longue, les états 8S, 8D sont très haut, donc ils ont une durée de vie beaucoup plus longue que l'état de P. Voilà donc une publication de 1997, où on voit une transition à deux photons sans effet Doppler, avec une largeur de 1.1 MHz. Et il faut absolument tenir compte pour en déduire la valeur de l'écart entre 2S et 8S, il faut tenir compte des déplacements lumineux. Voici, en fonction de la lumière, de l'intensité lumineuse, la position de cette ligne, calculé et mesuré, puis corrigé du déplacement lumineux. Comme je vous l'ai expliqué, je crois, la semaine dernière, si le faisceau lumineux n'est pas homogène spatialement, l'intensité lumineuse varie d'un point à l'autre, et donc le déplacement lumineux varie d'un point à l'autre, donc l'arrêt est en fait un élargissement inhomogène lié à cette variation spatiale du déplacement lumineux, et peut devenir asymétrique. Donc il faut faire vraiment une théorie soignée pour tenir compte du déplacement lumineux moyen, et surtout de la répartition spatiale des déplacements lumineux pour les corriger de cette inhomogénéité spatiale. Ces corrections sont encore plus importantes dans la transition 1S-2S qui est étudiée à Munich dans le groupe de Ted Hensch, parce que dans la transition 1S-2S, les deux niveaux alors, ont une durée de vie très très longue et potentiellement l'arrêt a une largeur très petite, donc on peut faire des mesures de très haute précision, mais il faut absolument éliminer complètement les déplacements lumineux. Je crois qu'il y a une collaboration entre les deux équipes pour utiliser le programme mis au point ici pour calculer les déplacements lumineux pour en tenir compte dans les mesures 1S-2S. Alors, deuxième exemple que je voudrais donner, l'absorption saturée, qui a été aussi proposée indépendamment par Christian Bordet et Ted Hensch au début des années 70. Alors, l'idée de l'absorption saturée est la suivante. C'est aussi un processus à deux photons, mais différent du précédent. Ce n'est pas une absorption de deux photons, c'est un couplage entre les effets de deux faisceaux laser différents. On a un atome qui se propage, par exemple, avec la vitesse V le long de l'axe Z, qui a une fréquence propre oméga 0, et est excité par deux ondes laser, l'une intense, l'autre faible, de même fréquence, oméga. Alors, l'onde pompe, qui est l'onde intense, va saturer l'atome. Qu'est-ce que ça veut dire saturer? Ça veut dire que ça va égaliser les populations du niveau supérieur et du niveau inférieur quand elle est résonante avec l'atome de vitesse V. C'est-à-dire quand sa fréquence oméga corrigée par l'effet Doppler oméga moins KV est égale à la fréquence atomique. Quant à l'onde sonde, elle va détecter une autre classe d'atomes, ceux pour lesquels elle est résonante. Et comme la vitesse maintenant est opposée à la direction de propagation de l'onde, la condition de résonance va être oméga plus KV égale oméga 0. Donc voilà les conditions de résonance avec l'onde pompe et avec l'onde sonde. Et vous voyez que quand je prends V égale 0, si je balaye oméga, et si je regarde V égale 0, à ce moment-là, les deux conditions vont être satisfaites simultanément. Au voisinage de V égale 0, l'onde sonde va détecter des atomes de vitesse très faible qui sont saturés par l'onde pompe. Et donc l'absorption va changer. C'est pour ça qu'on appelle absorption saturée. Si la population des deux niveaux sont égalisées, l'absorption va être moins grande, elle va être saturée. Et ce phénomène va apparaître sur un intervalle de vitesse correspondant à KV de l'ordre de gamma, où gamma est la largeur naturelle de l'état excité. Alors ça c'est très commode, parce qu'on prend une cellule, un faisceau laser, un miroir qui fait revenir avec ce faisceau en arrière, on balaye, et on voit des pics de résonance ayant la largeur naturelle beaucoup plus faible que la largeur Doppler. Alors, il y a une petite subtilité ici. Si l'atome a deux niveaux excités, E1 et E2, correspondant à deux fréquences atomiques ω01 et ω02, par exemple deux niveaux hyperfins excités, à ce moment-là, en plus de résonance en ω égale ω01 et ω égale ω02 avec les atomes de vitesse nulle, on a ce qu'on appelle des résonances de croisement, où la sonde détecte des atomes sur la transition ω 01, atomes qui sont saturés par l'onde pompe sur l'autre transition ω 02. Ou l'inverse. La sonde détecte sur ω 01 des atomes tels que ω plus KV égale ω 01, et ces atomes sont saturés par l'onde pompe sur l'autre transition, on a donc ω moins KV égale ω 02. Est-ce qu'on peut trouver une valeur de V satisfaisant à ces deux équations? Réponse oui. La solution de ces deux équations, c'est KV égale ω 01 moins ω 02 sur 2, et oméga, à ce moment-là, c'est ω 01 plus ω 02 sur 2. Donc, quand on balaye oméga, en plus de la résonance pour les atomes de vitesse nulle pour oméga égale ω 01 et pour oméga égale ω 02, on a ce qu'on appelle une résonance de croisement à mi-chemin entre les deux. Alors, voilà une des premières courbes d'absorption saturée spectaculaire qui a été donnée donc, dans le début des années 70. Et qui est reprise dans un article de George Hayes, Art Chalo et Ted Hens dans Scientific American, où ils font le spectre de l'arrêt d'absorption saturée sur l'arrêt Balmer alpha de l'hydrogène. Alors, je ne sais pas si vous voyez, la figure n'est pas très bonne, mais il y a deux raies ici. Une raie qui est 2P 1,5, 2D 3,5 et 2S 1,5, 2P 3,5. Les niveaux 2D, 3D 3,5 et 3P 3,5 sont pratiquement confondus. Et donc, le fait que ces deux raies sont séparées indique que l'état 2S1,5 et l'état 2P1,5 n'ont pas la même énergie. Et ça, c'est très important, c'est le déplacement de l'onde. L'onde avait mesuré le déplacement qui porte son nom par des transitions micro-ondes, en produisant des transitions entre 2S1,5 et 2P1,5, mais l'effet était trop petit devant les largeurs Doppler pour pouvoir être vu optiquement. Mais avec l'absorption saturée, qu'on se débarrasse de l'effet Doppler, on peut résoudre optiquement le déplacement de l'onde. Ça, c'est un petit peu une curiosité historique, c'est la première fois qu'on voyait le déplacement de l'onde de manière optique. Et non plus micro-ondes. Il y a quelque chose de plus spectaculaire qui a été obtenu quelques années après, qui est ce qu'on appelle le doublé de recul, et qui est le suivant. Supposez que j'ai deux états atomiques, un état fondamental et un état excité, et que je fasse l'absorption saturée sur cette transition. Alors, j'ai d'abord, vous voyez, on revient au diagramme épais, hein. Voilà l'onde pompe qui se déplace vers la droite, comme ça, et résonante avec ses deux classes de vitesses. Elle prend des atomes de vitesse nulle et elle les couple à des atomes de vitesse d'impulsion h bar oméga sur c et d'énergie, comme une parabole ici d'abscisse h bar oméga sur c, l'énergie ici c'est h bar oméga r. Donc la condition de résonance ici c'est dessinée par cette droite. La fréquence de l'onde pompe est égale à oméga plus oméga r. Et l'onde sonde, qui est ici, va détecter ces atomes de vitesse nulle. J'ai donc une résonance d'absorption saturée en oméga égale oméga 0 plus oméga r, où oméga r est tel que h bar oméga r égale h bar 2k2 sur 2l. Et vous voyez pourquoi ça, c'est la conservation de l'impulsion. Hein. Mais j'ai également un autre processus où l'onde pompe part de ce point et arrive sur ce point de vitesse nulle. À ce moment-là, elle part d'un point d'abscisse moins h bar oméga sur c et d'ordonnée h bar oméga r. Et l'onde sonde, qui se propage en sens opposé, détecte les mêmes atomes. Autrement dit, l'onde pompe amène une bosse de population dans cet état, parce qu'elle transfère des atomes de là à là. Et l'onde sonde, qui voit cette bosse de population dans l'état excité, elle est amplifiée par ces atomes dans l'état excité, donc elle est moins absorbée. Donc vous voyez qu'on va avoir de nouveau un creux d'absorption de l'onde sonde pour oméga égale oméga 0 moins oméga r. Donc vous voyez que quand je tiens compte de l'effet de recul, et que je fais l'absorption saturée sur une transition FE, l'arrêt d'absorption n'est pas simple, saturée n'est pas simple, elle est constituée d'un doublé oméga égale oméga plus oméga r, oméga égale oméga moins oméga r. Alors en général on ne s'occupe pas de ça parce que oméga r tombe dans le domaine du kHz, quelques kHz, alors que la largeur naturelle de l'état excité tombe dans l'ordre du MHz. Dans le domaine optique, l'effet de recul est petit. L'énergie de recul est petite devant h bar gamma. Gamma est grand devant oméga r. Par contre, si on prend un niveau de très longue durée de vie excité, on peut voir le doublé de recul. Et ça, ça a été observé par John Hall, Christian Bordet et O'Hara sur des composantes hyperfines de la transition d'une molécule de CH4 à 3 microns 39 avec un état excité donc de durée de vie suffisamment longue pour résoudre l'effet de recul. Et vous voyez que sur les trois composantes hyperfines, on voit le doublé de recul. Ça, c'est les trois doublés de recul. Et ici, c'est la dérivée de cette fonction qui fait apparaître donc également une structure de l'arrêt d'absorption saturée. Alors, c'est amusant. Pendant très longtemps, en optique, on a considéré l'effet de recul comme négligeable parce que, justement, oméga R est petit devant gamma et qu'il est difficile de mettre en évidence ce doublé de recul, le fait que l'émission et l'absorption sont décalées de plus ou moins oméga R, alors que ce n'est pas vrai dans le domaine gamma. Bien sûr, ça, c'est l'effet Mossbauer. Mais dans le domaine optique, c'est petit, et pendant longtemps, on a négligé l'effet de recul. Sauf qu'on avait oublié, ça a été apparu au début des années, au courant des années 70 et 80, quand on répète ce processus plusieurs fois, ce petit effet, vitesse de recul toute petite communiquée à l'atome, si on le répète 1 million ou 100 millions de fois par seconde, ça peut conduire à des variations de vitesse considérables, et ça a été tout le développement du refroidissement laser, et du piégeage, et du ralentissement des atomes par des faisceaux laser. Mais là, c'est la première fois, disons, je crois, qu'en optique, on voyait une manifestation claire de cet effet de recul. C'est une très belle manip. Donc vous voyez, j'espère vous avoir convaincu que l'utilisation des diagrammes EP permet de l'interpréter de manière extrêmement simple. Je passe maintenant, pour terminer cette leçon, un autre exemple, qui est l'effet Raman stimulé, qui joue un rôle absolument crucial dans toutes les recherches qui s'effectuent actuellement dans le domaine des atomes froids. Qu'est-ce que c'est que l'effet Raman stimulé? C'est maintenant une transition à deux photons, où au lieu que les deux photons se font tous les deux vers le haut, qu'il y a une absorption de photons, il y a absorption d'un photon, émission stimulée d'un autre photon. Donc on passe d'un état F1 à un état F2 par absorption de oméga 1 et émission stimulée de oméga 2. Et toujours la ligne en pointillé qui montre qu'il y a un défaut d'énergie par rapport à l'état intermédiaire et ici. Quand on fait l'effet Raman stimulé, il ne faut pas oublier que l'effet peut avoir lieu dans les deux sens. On peut soit absorber oméga 1 émettre de manière stimulée oméga 2, soit absorber oméga 2 et émettre de manière stimulée oméga 1. Attention, c'est différence avec l'effet spontané, l'effet Raman spontané. L'effet Raman spontané, on absorbe un photon et on émet de manière spontanée le deuxième photon oméga 2. Alors, pour que ça soit clair, j'ai convenu dans ce cours de réserver des flèches droites aux photons absorbés ou émis de manière stimulée et des lignes ondulées pour les photons émis spontanément. Alors, quand le photon émis de manière spontanée à une fréquence plus petite que le photon absorbé, on appelle un processus Raman spontané Stokes. Quand, au contraire, l'atome absorbe oméga 2 et émet de manière spontanée oméga 1, c'est un processus Raman spontané anti-Stokes. Ça, c'est bien connu pour les gens qui font de l'effet Raman. Alors, toujours, revenons au diagramme EP, et on voit alors que la situation est l'opposé de celle pour les transitions des absorptions à deux photons. Quand les deux photons se propagent dans le même sens, figure A, absorption, émission stimulée, vous voyez que les effets Doppler se compensent. Ils ne se compensent pas complètement. Il reste l'effet Doppler sur la transition micro-ondes ou radiofréquence entre F1 et F2. L'abscisse de ce point n'est pas la même que l'abscisse de ce point, mais leur différence d'abscisse est H bar sur oméga sur C. Donc, il reste un effet Doppler, mais l'effet Doppler est négligeable, il est dans le domaine hertzien. Par contre, si les deux photons se propagent en sens opposé, pour les faire amant stimuler, à ce moment-là, le changement d'abscisse est important, il est de l'ordre de deux fois l'impulsion du photon optique. La situation donc est différente que pour l'effet Raman, que pour l'effet d'absorption à deux photons. Pour l'absorption à deux photons, quand ils se propagent dans le même sens, c'est là qu'on a deux fois l'effet Doppler optique. Quand ils se propagent dans le sens opposé, les effets Doppler se retranchent, et c'est la situation inverse pour l'effet Raman stimulé. Enfin, dernier point, quand j'ai une structure dans l'état fondamental, l'effet Raman stimulé peut se prendre place entre deux états internes différents, F1 et F2. Je pars de F1, j'absorbe un photon et j'émets de manière stimulée un photon oméga 2. Ça, c'est donc un effet Raman stimulé entre deux états internes différents de l'état fondamental. Et je peux aussi avoir un effet Raman stimulé, j'absorbe oméga 1 et j'émets de manière stimulée oméga 2, mais j'aboutis au même état interne, mais à un état externe différent. Donc c'est un effet Raman stimulé entre deux états de même nombre quantique interne, mais de nombre quantique externe différent. Alors, ces résonances-là ont été étudiées de manière intensive, et je crois qu'un des premiers à avoir vraiment mis l'accent dessus, ça a été Gilbert Grimbert et Paul Berman et leurs collaborateurs. Ils les appelaient des résonances induites par le recul. Et se sont révélées extrêmement utiles pour faire de la vélocimétrie, pour mesurer la distribution de vitesse dans un gaz. Maintenant, elles apparaissent aussi dans les condensats de Bose-Einstein. On fait une résonance Raman stimulée entre deux états, deux excitations différentes d'un condensat, on les appelle plutôt des diffractions de Bragg. Mais en fait, c'est la même chose, c'est un effet Raman stimulé entre deux états qui diffèrent par l'impulsion. Donc, je m'arrête là au bout d'une heure, et dans le cours suivant, on va continuer les processus optiques parce qu'ils se sont développés avec une vitesse fantastique au cours des dernières décennies, et je voudrais vous montrer où on en est maintenant. On en est maintenant à des puissances gigantesques et à des effets relativistes qu'on était loin de soupçonner au début. Voilà, je vous remercie.